Toujours à l'antenne de l'émission Zigzag, c'est Chantoune Marcotte qui est avec vous jusqu'à 18h. Pour tous ceux et celles qui sont fans de musique de Noël, ne manquez pas ce qui suit, parce qu'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir à l'émission l'auteur-compositeur et interprète Elliot Maginot qui vient nous présenter sa toute nouvelle chanson de Noël qui s'intitule The Ballad of Mr. Klaus. Et pour tous ceux et celles donc qui, le 1er novembre, vous partez la place de Noël, quoi de mieux que d'ajouter une chanson québécoise, une chanson qui sort de notre habitude. Aujourd'hui, donc, en plus de parler de sa dernière chanson, on va en profiter pour aborder son dernier album Easy Morning, qui a notamment été nominé à la longue liste du Polaris et qui est sorti cette année. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, voici un extrait de la chanson en question. Voici un extrait de The Ballad of Mr. Klaus. Alors, Elliot Maginot, bonjour.
Salut, salut.
Ça va bien?
Ça va, toi?
Bien, merci. Aujourd'hui, on te reçoit pour présenter ta nouvelle chanson qui s'appelle « The Ballad of Mr. Klaus », une chanson de Noël qui est sortie le 10 novembre dernier. Donc, première question, il n'est pas un peu trop tôt?
Écoute, moi, je trouve qu'il est vraiment trop tôt. c'est pas moi qui fais les règles, apparemment. Il y a toutes sortes de paramètres qui font que pour que les radios le reçoivent à temps. Puis, à partir du lendemain du 31 octobre, tous les sphères de la société, dont les radios, passent en mode Noël. Fait qu'apparemment, c'est ça. Mais c'est pas mon cas.
Mais c'est très drôle parce que ça me faisait penser à les gags des magasins comme Walmart, comme Costco, qui déjà, avant même que l'Halloween soit passé, mettent déjà les équipements, les décorations de Noël. Alors ça me faisait bien rire.
Mais ce qu'il faut... Tout ça est très absurde parce que nous, faut qu'on soit à la fin de l'été pour faire ça, donc...
C'est ça.
Il faut que je l'écrive en été, on rentre en studio à l'été, on fait le mix, tout ça, pour que ça soit livré avant octobre, pour qu'on ait le temps de livrer ça à toutes les plateformes, aux radios, puis tout. Fait que c'est un exercice dans lequel il faut que tu fasses beaucoup de visualisation, que tu plonges dans un état qui est pas, dans un état artificiel.
Mais est-ce que c'est facile de se mettre dans l'ambiance, d'enregistrer une toune de Noël pendant une canicule?
Ben, quand même, parce que, au risque de semer cliché, pour un Noël, c'est vraiment d'être avec ceux que t'aimes, c'est un espèce d'esprit de camaraderie, puis des jeux, puis tout ça. Puis en studio, comme je travaille toujours avec les mêmes gens qui sont mes meilleurs amis, mes amis plus proches, c'est très facile de recréer cette espèce de mood-là très, très joueur, très, très ludique, très camaraderie. Puis tu sais, c'est du studio qui est moins sérieux, en guillemets, que quand on fait un album, parce que c'est une chanson qui... Donc c'est un exercice qu'on fait pour le plaisir de la chose, qui est un peu en dehors du reste de mon travail, disons. Fait que c'est assez facile de
Ben, c'est pas depuis hier que tu fais des chansons de Noël, si je peux tutoyer. T'as commencé en 2018 avec Christmas Ain't Enough, après ça, t'es revenu en 2019. 2020, petite pause, pour ensuite revenir en 2021, mais la passion des chansons de Noël, comme tu l'expliques, c'est rassembleur, mais on peut pas se le cacher, les paroles sont pas les plus joyeuses que, mettons, au royaume du bonhomme hiver. C'est un peu sombre, c'est un peu comme une réflexion de... T'as pas besoin de à chaque Noël, tu pleures. You won't believe that I was awake. Why I can quit you quit when you're awake. C'est pas les chansons les plus joyeuses, mais à quel point justement c'est.
Non, mais as-tu déjà lu les paroles de Minuit Chrétien ou de
Ah non, ça c'est choqué.
Les paroles de Noël qui sont presque dans le gore là, tellement c'est intense.
Bon, mais un zéro. OK, 1-0 pour toi. Mais l'envie, justement, de pourquoi des chansons et non un album?
Ben, parce que on dirait que j'ai pas envie justement que ça devienne du travail. Dans le sens que, oui, ça fait partie de mon travail de faire ça, mais un album, c'est quelque chose de longue haleine, quelque chose de plus impliquant. On dirait que ça, pour moi, c'est vraiment... On dirait que les chansons de Noël, tu sais, comme tu as dit, je l'ai faite quelques fois au cours des dernières années. Puis pour moi, c'est un prétexte pour revoir ma gang en studio. Je suis obligé d'attendre le cycle de l'album. Puis d'habitude, t'es en studio une fois ou deux ans ou trois ans pour faire un album. C'est très intense, très stressant. Puis après, il y a toutes les tous les facteurs, en tout cas, tous les aspects de carrière qui rentrent là-dedans. On voit que je veux garder ça en dehors de Noël. J'ai pas envie de. Mais peut-être qu'un jour je le ferai, mais on voit que là, pour l'instant, j'ai envie que ça reste un prétexte pour revoir mes amis entre les cycles d'albums pour s'amuser un peu avec ça.
C'est intéressant parce que mine de rien, ça montre que la musique avant tout pour toi, c'est une passion.
Ben oui, 100%, 100%, c'est devenu mon métier par la force des choses, hein, presque par accident. Je pense que c'est important de faire des moves comme ça justement pour que ça reste juste des petits rappels que la musique, c'est avant tout, on a fait ça parce que c'était notre passion.
C'est ça, parce que c'est pas difficile justement de mêler une passion avec un travail. Il y en a qui au final, le travail prend du dessus sur la passion.
Oui, c'est très difficile, effectivement. C'est un équilibre qui est assez difficile à maintenir. Je pense que la clé de tout ça, c'est de travailler avec des gens que tu adores. On dirait que moi, les gens qui travaillent autant, les musiciens que Connor qui réalise les trucs avec moi. Puis, c'est mes meilleurs amis. Ça fait qu'on travaille ensemble, c'est mes collègues de travail, mais avant tout, ça va rester mes amis puis mes partenaires de passion. Fait que tant qu'ils gardent ça en tête de tes priorités, ça doit bien aller, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête parce que tu peux vite l'échapper. Tu peux vite commencer à penser à l'argent puis au ces genres de trucs-là qui viennent pourrir toutes les relations dans à peu près tout. Fait que
quand on
parle vigilance constante.
C'est ça. Quand tu parles de Connor, c'est Connor Seidel qui travaille depuis tes premiers albums. Il a travaillé notamment sur Easy Morning. On va revenir sur Easy Morning, mais j'aimerais qu'on aborde une question qui m'a intéressé quand j'ai fait des recherches sur toi. C'est que, comme je disais, en 2020, tu as pris une pause de chansons de Noël. Tu as fait une reprise d'Alain Souchon qui s'appelle Allô Maman Bobo. Et on apprend en apprenant à te connaître que tu es un gros fan de chansons françaises. Notamment Alain Souchon, justement. Mais tu fais de la musique en anglais. Ça, depuis le premier album. Peut-être sur le premier, il y avait des petites chansons en français.
Une chanson en français.
C'est ça. C'est ça, mais je me demandais pourquoi, justement, ne pas montrer cet amour. Si la musique, avant tout, c'est une passion, pourquoi ne pas la partager à travers plus de reprises de chansons françaises ou l'envie de plus écrire en français?
Ben, je pense que justement, j'ai tellement de respect pour la chanson française, pour la langue française, que j'ai pas envie de la gâcher avec des textes que moi je juge pas suffisants, pas à la hauteur de cette langue-là.
Ah, t'es méchant envers toi-même, là.
Ben, c'est vraiment pas de la fausse modestie ou de la fausse humilité, c'est vraiment juste de quand t'écris quelque chose, c'est automatiquement si. Dans le sens que tu peux, au stade de l'écriture, t'es le seul juge de la qualité de ce que tu fais avant que ça se rende aux oreilles des gens. Puis moi, j'ai jamais, ou en tout cas presque jamais réussi à écrire un texte en français où je me disais, OK, ça se passe assez pour en faire une chanson, ça se passe assez pour que. J'ai toujours un petit malaise de ouf, non, ça c'est pas. Ça, si j'entendais ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, moi j'aurais un jugement là-dessus. J'ai pas envie de sortir quelque chose qui j'assume pas à 100% puis qui me rend pas fier de chanter en français puis tout. Fait que je dis pas que ça arriverait pas un jour, mais je pense que c'est trop sérieux pour moi. C'est trop puis j'ai pas envie non plus de le faire parce qu'évidemment je reçois il y a beaucoup de pression, mais pas de pression, mais c'est comme les journalistes m'en parlent souvent, mais mes amis, ma famille m'en parle souvent, mon label m'en parle souvent de chansons en français, puis chaque fois que je fais un cover en français à la télé, c'est comme quand est-ce que tu fais. Fait que j'ai pas envie non plus de le faire parce que je sens que je vais avoir cédé à la pression populaire, en guillemets. J'ai envie de le faire à mon propre rythme pour les bonnes raisons, quand ça va se passer de façon naturelle. Fait que j'attends ce moment. Peut-être qu'il arrivera jamais, peut-être qu'il va arriver dans un an, mais la porte est toujours ouverte.
Mais c'est tellement intéressant comment tu abordes justement ce désir cette pression puis ce côté jugement, parce que quand on apprend justement, on va aller sur l'album Easy Morning qui est sorti cette année, qui a été, si je me trompe pas, nominé pour un prix Polaris. Et quand on revient justement à la conception, on peut lire justement que tu t'es vraiment enfermé dans une cabane à la maison de ta copine en Mauricie. T'aimes pas travailler avec des gens autour de toi parce que tu veux vraiment finaliser tes trucs avant. Est-ce que tu es très susceptible ou c'est vraiment par la peur du jugement?
Ben clairement, je pense que en partant, je pense que chaque artiste, même s'il va le nier jusqu'à la mort, est extrêmement susceptible, extrêmement fragile, extrêmement vaniteux, orgueilleux, tout ça. Fait que c'est sûr que tant que chez moi je suis pas arrivé à un produit relativement fini duquel je suis satisfait, c'est impossible que personne entende quoi que ce soit, même ma blonde, même Connor, même mon label, même ma gérante, il y a personne qui entend rien. Puis quand je sens que je suis allé aussi loin que je pouvais amener le truc, puis que je trouve que ce que j'ai à présenter est présentable, là j'ai aucune misère à ouvrir les vannes puis à laisser rentrer toutes les personnes avec qui j'ai envie de collaborer, les personnes dont je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à la chanson, à l'album. Mais il y a une espèce de premier processus, c'est pas le premier 50% du travail jusqu'aux maquettes, l'arranger puis tout, que je dois faire absolument tout seul parce que sinon ça me paralyse complètement.
Mais si maintenant si on prend une chance si on prend une session pour un album, il y a combien de chansons, mettons, qui ont été écrites mais qui sortiront jamais parce que tu l'assumes pas?
Pour Easy Morning, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a jamais beaucoup. Pour Easy Morning, je pense qu'il y en a trois qu'on a. Il y en a, ben, en fait, qui se sont rendus jusqu'à ce que au processus où j'ai fait écouter à Connor, qu'on enregistre. Il y en a deux qui n'ont pas fait l'album. Avant
Mais
ça,
tu
moi, en fait, j'aime beaucoup faire le travail en amont tout le temps. T'sais, quand j'arrive avec mon. Je suis pas du genre à écrire 40 chansons, 40 maquettes, puis à présenter ça à mon réalisateur, à mon label, puis qu'on en choisit. Moi, je fais mes maquettes, mes arrangements, puis j'amène ça comme à. Je sais pas, 60% du travail fini. Donc, moi, j'ai fait le travail de sélection en amont, fait que le tri a été fait. Je vais toujours commencer à écrire des chansons, faire des maquettes, donc je suis pas satisfait, puis je laisse tomber. Mais c'est en studio, quand on arrive en studio, c'est vraiment on fait l'album, puis on garde toutes les chansons. Là.
Ben même là, justement, tu les as quand même montrés. Donc, même si tu les as pas nécessairement mis sur un album, c'est pas comme si tu les assumais pas au point de dire, ah, finalement, non, je la garde pour moi, il y a personne qui saura que j'ai écrit une chanson en français.
Dans ce cas-là, les chansons que je montre, puis qui finissent par pas être sur l'album, c'est pas des chansons que j'aime pas ou dont je suis pas fier, c'est plus des chansons qui s'inscrivent moins bien dans le contexte de l'album, qui sont moins pertinentes dans l'espèce de fluidité du pacing et tout ça. Fait qu'il y a des chansons peut-être qui vont se retrouver sur autre chose que je vais réutiliser ou que je vais donner à d'autres personnes, mais quand je présente une chanson, c'est quelque chose dont je suis relativement satisfait, qui me fait pas honte, là. Mais des fois, il y a des chansons. Il y a des chansons qui se sont trouvées sur le deuxième album, qui avaient été écrites pour le premier, mais qui ne fonctionnaient pas, puis qui ont été des chansons qui fonctionnaient presque le plus sur le deuxième album. Fait que tout ça est une affaire de contexte, puis des fois de timing aussi, puis de mood de l'album aussi, d'arrangement et tout ça. Là. Fait que
Ben sinon, tu fais des B-sides. Tu sais, à l'époque, il y avait les B-sides sur les 45 tours, puis parfois, ces B-sides-là sont même pas encore disponibles en digital. Fait que là, si tu veux écouter la chanson que tu assumes le
ouais,
moins, faut
exact.
leur acheter le vinyle. Fait que c'est comme
Ben.
une façon de se rentabiliser.
Oui, tout à fait. Peut-être qu'il y en a, ça arrivera que je ferai une espèce de compilation des chansons rejetées, mais il reste tout à quelque part dans ma tête. J'ai un petit tiroir pour toutes les chansons rejetées et oubliées.
J'aimerais finir avec en abordant Easy Morning, qui est ton dernier album, qui est sorti en mai dernier. C'est un album qui, je pense, fait du bien aux âmes sensibles, parce que ça peut paraître comme des chansons tristes, des chansons profondes qui n'apportent pas nécessairement d'espoir. Mais à quel point, justement, c'est une question très très classique, mais j'ai comme besoin d'en parler à chacun des artistes qui fait ce genre de musique, parce que ça m'interpelle vraiment. À quel point, justement, pour toi, il y a de l'espoir, ou à quel point, justement, ça reflète ta vraie façon de penser? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais admettre ou non?
Ben, je pense que de nature, je suis quelqu'un d'assez pessimiste, entre guillemets, mais en même temps, j'ai vraiment pas envie de baisser les bras. Puis, tu sais, là, je viens d'avoir une autre petite nièce qui est née, j'ai un petit neveu. Tu sais, il y a la nouvelle génération dans ma famille qui vient d'arriver, puis on dirait qu'une fois que ça arrive, tu peux plus dire, bon, il n'y a pas d'espoir, puis on abandonne, puis on boit du vin jusqu'à la fin du monde. Fait que c'est sûr que j'ai encore envie de me battre, entre guillemets, de présenter la meilleure version de moi-même, d'être un citoyen le plus responsable possible. Je pense j'ai beaucoup d'espoir dans la génération plus jeune, ceux qui ont entre 15 et 20 ans, même, qui sont nés littéralement avec l'espèce d'angoisse climatique, avec tous les changements de société, que ce soit au point de vue du harcèlement sexuel, de l'égalité des femmes, des droits civiques et tout ça. Je pense que ça va être la génération qui va être la plus apte à faire bouger les choses parce qu'ils n'auront pas le choix. Ça, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour eux. Fait que on dirait que je suis pessimiste quand je côtoie des gens de ma génération ou plus vieux, puis quand je côtoie des jeunes, je suis comme, ah non, ok, ça se peut encore, il y a encore quelque chose à faire. Mais oui, j'ai pas envie d'abandonner. J'ai pas envie de dire, bon, ben, tant pis, c'est foutu, puis je m'achète un 4x4, puis on s'en fout.
Mais est-ce que des fois, il y a des gens qui viennent te voir en disant, c'est sombre, mais ça m'a fait du bien?
Ben certainement, en fait, je pense que ça arrive plus. En fait, j'ai toujours l'impression de faire de la musique plus sombre que ce que je pense. J'ai l'impression de quand je chante une chanson, un album, je suis comme ouf, ça va être un peu déprimant. Puis les gens me disent ah, c'est très lumineux, ça me donne l'espoir, ça m'aide dans, tu sais, l'histoire classique de c'est
Ben.
toujours dur à entendre, mais ça fait toujours du bien. Mais des gens qui viennent te voir après un spectacle, disent, hey, ça m'a aidé dans le ma femme est morte du cancer, moi j'ai vécu telle affaire, puis ça m'a aidé à traverser telle épreuve. Puis je suis comme wow, ok, là c'est plus moi je pense que c'est quelque chose de très dark, de très pessimiste, hein. Les gens arrivent à voir le je pense que j'ai l'impression que les gens arrivent plus facilement que moi à voir la lumière dans ma musique, puis c'est vraiment tant mieux.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a surtout ce stéréotype justement de faire que la musique québécoise est une musique très très sombre, puis quand elle est trop de bonne humeur, ben là ils donnent plein de prix à la disque. Mais au final, c'est juste que quand on est triste, il y a rien de mieux que de se sentir pas seul. Fait que c'est là que c'est intéressant d'écouter Easy Morning. Elliott
Ben oui,
Maginot, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup à celui-ci qui nous
ah, merci à toi.
présentait son dernier single de Ballad de Mr. Klaus. Allez écouter Easy Morning, c'est dans les plateformes de streaming. Merci beaucoup d'être venu nous parler au
Merci à
109
toi, c'est un
Séché.
grand plaisir.